Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 9 janvier 1992.
Nous allons continuer cette réflexion sur l'apparition dans nos expériences les plus élémentaires et en même temps les plus profondes de ces deux états, un qui est en acte et l'autre qui est en puissance. Jugement d'existence qui exprime l'éveil fondamental de notre intelligence qui tous les jours doit se réactuer puisque normalement nous dormons tous les jours. Tous les jours, on passe des ténèbres à la lumière, des ténèbres de la nuit, même quand il y a du grand vent, de l'ouragan. Cette réalité de se réveiller. C'est tout à fait élémentaire et fondamental, ça, de ces deux états. Puis, nous avons découvert, dans cette expérience qui est aussi très fondamentale, du travail. Ce point de vue du travail ordonné à une œuvre, deux états dans le travail. Parce que normalement, vous ne travaillez jamais pour ne rien faire. Ça arrive quelquefois, hélas. Il y a des gens qui travaillent pour passer le temps. Ce serait un peu trop long. Alors, pour brûler le temps. Mais ça, c'est pas le travail humain, oui, c'est un peu, c'est le somnambule. C'est curieux de voir cet état somnambule de l'homme qui augmente. Quand vous travaillez sans savoir pourquoi vous travaillez, ça peut arriver. Quand vous suivez un cours, sans savoir pourquoi vous suivez. Je ne vois pas très bien. Vous suivez un cours pour chercher la vérité avec le professeur, pour coopérer avec lui. Et si vous ne coopérez pas avec lui, votre travail n'est pas orienté, n'est pas déterminé, n'est pas finalisé. Un travail finalisé, tendu vers l'œuvre. Et c'est vrai, c'est l'œuvre qu'on doit faire qui fait que le travail a une tension. Ce que les stoïciens appelaient le ténos, la tension dans le travail. La tension dans la vie. Il y a des êtres qui ne sont jamais tendus. L'arc n'est jamais tendu. Toujours mou. Alors, si vous faites partir la flèche, ça ne va pas très loin. Ça tombe à vos pieds. Il y a un travail qui est comme ça. Tout travail n'est pas très tendu vers un but. Tandis qu'un travail tendu vers un but, vous voyez, on vous dit, ça presse l'œuvre. Quand la cuisson n'est pas... peut-être les... Il y a une tension à ce moment-là. Et on voudrait bien dire, soleil, arrête-toi. Prenez le temps de cuire le beefsteak. La tension dans le travail, c'est l'orientation vers le but. Et plus on est proche du but, plus la tension est forte. Et c'est le devenir, ça. Parce que dans le travail, il y a un devenir. C'est un devenir intelligent, le travail. Et c'est vrai que le travail nous donne le sens du devenir et une conscience du devenir. Alors, ce devenir intelligent est tendu vers un but, vers un terme. Ce que saint Thomas, à la suite d'Aristote, appelle le terme, ad quem, vers lequel on tend. Nous avons là deux expériences tout à fait fondamentales. Une radicale, et puis l'autre qui est à l'intérieur du travail, qui est le sens du devenir. C'est curieux, comme le travail que nous faisons nous donne ce sens du temps. Nous avons ensuite l'expérience de l'amour d'amitié. Alors là, c'est plus simple d'une certaine manière, et en même temps, c'est aussi très significatif, comme on a de la peine à dépasser l'intentionnalité. L'intentionnalité de l'idée, du projet artistique, j'allais dire, il est très visible, le dépassement. Parce que quand vous travaillez sans aucun résultat, vous le voyez. Vous voyez que votre travail n'a pas de résultat. Vous restez dans l'intentionnalité. Le résultat est visible. Dans le travail, l'effet qui est un dépassement par rapport à l'intentionnalité de l'eidos, de l'idée. Tandis que le dépassement de l'amour, dans l'amour d'amitié, est beaucoup plus difficile à détecter. Un amour qui n'atteint pas vraiment l'autre, l'ami, n'a pas de réalisme. On peut idéaliser l'amour. Et un amour romantique, au clair de lune. Un amour romantique est un amour qui demeure dans l'immanence de l'intentionnalité. Ah, comme je l'aime, je l'aime. Puis quand il est présent, on continue de dire comme je l'aime, et on ne le voit même pas. Oui, Marie-Madeleine, au sépulcre, au moment de la résurrection, elle continue de dire qu'elle l'aime. Et il est là. Il n'atteint pas. Vous allez dire, ça c'est le mystère. Oui, et c'est le réalisme aussi. Parce que c'est quand même Jésus qui est présent. C'est la personne du Christ présente. Marie, devant la crèche, je ne serais pas restée comme ça. Elle l'emmaillota. Ça, c'est le réalisme de l'amour, accompagné du travail. Parce que c'est cette liturgie du travail, le premier devenir auprès de l'Éternel. manifeste dans son amour très intense et très romantique, terriblement romantique. On aime plus son amour que l'autre, voyez, dans l'amour romantique. On est enveloppé d'un amour malheureux, parce que c'est romantisme est parfaitement romantisé dans le malheur. C'est curieux. Il aime le drame. Il y a des personnes qui vivent que dans le drame. Et au fond, ils aiment mieux le drame que la personne qu'on aime. S'il n'y a pas de drame, c'est pas intéressant. Alors, il crée des drames. C'est extrêmement curieux. Et quand tout est paisible, ça va pas. C'est une mer d'huile, pas intéressant du tout. Alors on crée un drame. Créer le drame, ce n'est pas l'amour qu'on a pour l'autre. C'est nous-mêmes qui voulons passer devant l'ami. Alors tout est tendu, dramatique. C'est très difficile de dépasser cet aspect dramatique de l'amour romantique. On reste dans l'intentionnalité. Je dis ça exprès pour que on comprenne bien, vous voyez, comment on peut, dans l'amour, rester encore quelqu'un qui n'est pas éveillé. Il continue, parce qu'au fond, l'amour romantique, c'est le sommeil. C'est d'être celui qui n'arrive pas à découvrir la réalité. Son rêve. Un rêve éveillé, si vous voulez, mais c'est son rêve. C'est un rêve. On peut passer tout le noviciat dans un rêve. Évidemment, il faut se regonfler tous les jours pour que ce rêve continue. Et que le drame continue. On peut passer tout son noviciat dans un rêve. Dans un amour romantique. Assez curieux, mais comme ça. Alors que c'est l'ami qu'on découvre, Jésus qu'on découvre. Dans l'amour d'amitié, au point de vue humain, c'est l'ami présent. C'est lui qu'on atteint. C'est lui qu'on regarde. C'est lui qui nous intéresse. Et l'amour qu'on a pour lui est uniquement le moyen. Pour l'atteindre. Et le jugement d'existence dans l'amour d'amitié. Être éveillé dans l'amour d'amitié. Tant qu'on ne regarde pas l'ami, on n'est pas éveillé dans l'amour d'amitié. On est somnambule, romantique. On est le somnambule de l'amour. Et on reste dans son immanence pure. Et cette immanence, pour qu'elle soit plus vécue, on met le drame, on met les brisures, on les fait. Quand elle n'existe pas. C'est très curieux. Comme dans l'amour romantique, on crée les brisures pour que l'amour soit plus intense. Et on ne voit pas le réalisme profond de la personne qu'on aime. Parce que c'est la personne qu'on aime. C'est trop classique, le réalisme de la personne. Vous voyez, parce que le réalisme de la personne, de l'ami, permet le dépassement. Le dépassement se fait par rapport à l'ami. L'aspect extatique de l'amour, ce dépassement par rapport à nous-mêmes, et la réalité. et le bien. Le bien qu'on aime. Le bien aimé. C'est l'ami qu'on découvre. Et qu'on découvre de plus en plus. Et qui permet de s'appuyer sur lui. D'être lié à lui. Et n'être plus nous. De s'intéresser à lui et ne plus s'intéresser à notre drame. C'est lui qu'on regarde, et uniquement. Un dépassement de toutes les modalités particulières. Vous voyez, le comment de l'amour, le comment psychologique de l'amour, le comment psychologique de l'amour, c'est le drame. C'est cet amour romantique dans l'immanence du vécu. Et qui fait qu'on ne voit plus l'ami. Qu'on ne voit plus. Qu'on projette sur lui notre drame. On projette sur lui cette immanence de l'amour. Je crois que c'est très important de bien saisir dans l'amour d'amitié ce dépassement de l'ami. Ce qui nous montre que l'éthique qui essaie de comprendre l'acte humain, l'analyse de l'acte humain, l'éthique n'est réaliste, donc n'est vrai, que quand il y a ce dépassement du volontaire, de l'acte volontaire, pour en chercher sa source, ou plus exactement chercher son but, ce vers quoi cet acte volontaire tend. Ce vers quoi? En vue de quoi cet acte volontaire? En vue de quoi cet amour? En éthique, l'acte humain, je reste dans l'acte humain. L'ami, on ne l'analyse pas. Au sens strict, il est le dépassement. Commencer à analyser l'ami, c'est en réalité la projection de votre analyse, de votre acte humain que vous faites sur l'ami. Et quand vous faites ça, vous n'aimez plus. L'amour a quelque chose. L'amour ne peut être simple que lorsqu'il atteint l'ami et lorsque l'ami s'impose comme celui qu'on aime. Vous voyez, c'est très important ça, parce que ça nous fait comprendre toutes les déviations possibles d'un véritable amour. La comparaison qu'on fait, quand on se met à comparer, on reste dans l'intentionnalité de l'amour, dans le vécu d'amour. Alors, on louche. Alors que les deux yeux doivent être tournés vers l'ami pour voir le relief de l'ami et le voir tel qu'il est. Alors que si vous mettez à regarder l'autre pour comprendre que c'est vous qui aimez plus que l'autre. C'est un retour sur vous. Et donc vous restez dans l'intentionnalité. Et cette dualité dans l'intentionnalité diminue l'amour. Toute jalousie diminue l'amour. C'est une déviation. Une perte de vitesse. Une fois qu'on a compris ça, on bazarde toujours la jalousie. Au nom de l'amour, c'est la seule manière de vaincre la jalousie. C'est de comprendre que la jalousie est le ver rongeur de l'amour. Et que ça empêche l'amour d'être pleinement ce qu'il doit être. Il n'y a que le regard sur l'ami qui permet de découvrir la simplicité de l'amour et ce fait qu'on ne se regarde plus parce qu'on aime. Quand on aime, on ne se regarde plus. On ne regarde que l'ami. Alors, on est parfaitement éveillé dans l'amour. L'éveil parfait de l'amour, c'est l'ami. Ce qui actue. Et vous voyez bien là que ce qui actue dépasse toute détermination. Quand vous êtes trop attentif à vous tâter le pouls, est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas? Est-ce que j'aime plus que les autres? Est-ce que les soyez vous tâtez le pouls, vous regardez l'aspect quantitatif de l'amour. Et en regardant cet aspect quantitatif de l'amour, vous n'aimez pas. L'amour est au-delà de la connaissance. Et quand vous restez dans la connaissance de l'amour, ce n'est pas l'amour. Et ça, c'est très, très important. Quand vous évaluez dans l'amour d'amitié, qui implique la réciprocité, est-ce que l'ami m'aime plus que moi je l'aime? Ça, c'est la grande tentation. La tentation permanente dans l'amour d'amitié. Quand cet amour d'amitié n'est pas pur, reste encore dans le devenir, implique encore une nécessité de croissance, donc un amour d'amitié qui commence à naître et qui n'a pas vraiment atteint l'autre. Ça met du temps, vous savez, le réalise dans l'amour, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que il y a un amour volcanique, romantique du début, qui est magnifique, un grand feu d'artifice. Ah, ce que j'aime. Oui, mais au fond, en réalité, c'est votre état que vous regardez. Et à ce moment-là, brusquement, vous dites, mais est-ce que l'autre m'aime de la même manière? D'où l'inquiétude et la fébrilité qui commencent. Est-ce que l'autre m'aime de la même manière? Et je ne vais jamais le savoir. Et c'est vrai, parce que vous n'êtes pas dans l'autre. Donc, dans l'immanence, vous ne pouvez jamais savoir si l'autre vous aime de la même manière. Et alors, c'est l'inquiétude qui commence. C'est l'inquiétude qui commence parce qu'au fond, vous vous êtes replié sur la manière dont vous aimez. Vous voyez, la psychologie. La manière dont vous aimez. Le psychologue n'atteint jamais l'amour. Il n'atteint que la manière dont on aime, ce qui n'est pas l'amour. Et il fait les comparaisons de la manière dont on aime. Le pose, le comment, dans l'amour, trahit l'amour. C'est la plus grande des trahisons. C'est là, on voit la limite de la psychologie. C'est toujours par rapport à l'amour. Questionner tous les psychologues sur l'amour, c'est le grand piège. Parce que c'est le comment de l'amour qui regarde. Et le comment de l'amour n'est pas l'amour. Parce que c'est la connaissance que vous avez de votre amour. Et la connaissance que vous avez de votre amour n'est pas l'amour. Ça, c'est le piège terrible qu'il faut absolument dépasser. Donc, il faut d'abord le sentir. intérieurement et le sentir dans le vécu et ne jamais s'y arrêter et tout de suite reprendre le premier jaillissement de l'amour qui ne connaît pas cela. C'est ça le premier amour. Et la ferveur du premier amour, c'est ce dépassement du comment de l'amour. Parce que quand vous êtes dans le comment de l'amour, vous cherchez la quiddité de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour que j'ai pour cette personne? Et est-ce qu'elle m'aime de la même manière? Vous voyez, dans l'amour d'amitié, le grand piège, c'est d'aimer l'autre parce qu'il m'aime. Et non pas d'aimer l'autre pour lui-même. D'aimer l'autre parce qu'il m'aime, c'est encore dans l'intersubjectivité. C'est donc une immanence double, la mienne et celle de l'autre. Et on se reconnaît dans cette intersubjectivité. Mais cette intersubjectivité ne me fait pas dépasser l'amour, ne me fait pas dépasser mon intentionnalité. Et je ne découvre pas l'autre. Je ne découvre pas l'ami tel qu'il est. Et l'intersubjectivité fait que je compare. Je compare la manière dont il m'aime. Ah, je vois. Ah oui, il a un accent particulier quand il dit qu'il m'aime. Mais cet accent n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être. Combien de fois on entend des trucs comme ça? Le sourire, ah, son sourire n'est pas tout à fait un peu conventionnel. C'est pas un sourire absolument simple. Ce n'est pas direct. Ah, ce que je voudrais revenir au premier amour. Et c'est comme, je me souviens, ce religieux qui regardait ceux qu'il avait connus tout jeune. Oh, comme ils étaient gentils quand ils étaient jeunes. Ça prouve qu'il ne les aime plus. Parce qu'il les aime, vous voyez, avec le souvenir du passé. Quand ils étaient gentils, quand ils étaient... Ils souriaient admirablement. Maintenant, ils souriaient à tout le monde. Tandis qu'ils ne souriaient qu'à moi. Cette espèce d'appartenance par la connaissance. La connaissance est toujours égocentrique. Il ne faut pas l'oublier. Sauf le réalisme du jugement d'existence. L'aspect quiditatif de la connaissance, l'aspect intentionnel et immanent de la connaissance, est terriblement possessif. C'est toujours le danger de la connaissance et le danger de la philosophie. Il y a un danger, il faut bien le comprendre. Et vous voyez, c'est ce que j'appelle le gargarisme philosophique. On se gargarise d'idées et on n'atteint plus la réalité. Et ce gargarisme d'idées est terrible, parce qu'il nous empêche d'aimer. Il nous empêche de voir la réalité. On reste dans son immanence. Et bien, quand ça arrive à l'intérieur de l'amour, le gargarisme de l'amour, c'est terrible. Parce qu'il est double, vous comprenez? Alors, parce qu'il est double, il y a le mien et le sien. Et on les compare. Et alors, si l'autre, pour telle ou telle raison, semble aimer moins, on répond en l'aimant moins. Et comme l'autre s'aperçoit que je l'aime moins, il m'aime moins. Alors, vous voyez la catastrophe. Eh bien, tous les divorces s'expliquent comme ça. Tous les divorces actuels. C'est la conséquence de 4 siècles, 5 siècles d'immanent, d'idéalisme qui est venu corrompre l'amour et qui fait que j'aime l'autre parce qu'il m'aime. Ça, c'est très touchant. Mais comment voulez-vous que je l'aime pas? Il m'aime tellement. Mais c'est pas ça. C'est lui que vous devez aimer. C'est pas l'amour qu'il a pour vous. L'amour qu'il a pour vous, c'est le coco. Mais ce n'est pas la réalité. et vous n'atteignez pas l'autre. Et tant que vous n'avez pas atteint l'autre, vous ne l'aimez pas, ce n'est pas l'ami. L'amour qu'il a pour vous n'est pas lui. Vous restez dans l'intentionnalité, vous ne touchez pas à la réalité. Et votre amour, par le fait même, reste romantique. Vous voyez, c'est capital de sentir ça et nous-mêmes, de nous purifier de ce romantisme qui colle à notre cœur. Et on aime ce romantisme, vous voyez, on l'aime. Parce que, je vous dis, c'est le gargarisme de l'amour, on a l'impression qu'on aime. On s'agite, ça fait de la mousse, mais c'est pas l'amour, c'est pas la réalité. Il y a ce réalisme de l'acte dans l'amour qui est au-delà de l'amour, mais qui est source d'amour, c'est l'ami. L'ami n'est pas l'amour que j'ai pour lui. Il est source de l'amour que j'ai pour lui. Il est plus. Il me dépasse. Et je rectifie l'amour de l'ami dans la mesure même où moi-même, je rectifie mon amour que j'ai pour lui. Autrement, je l'entraîne dans une espèce de romantisme d'amour. C'est contagieux, vous savez, le romantisme. Donc, il y a là une expérience de l'acte qui est capitale. La finalité, c'est la même chose. Hein. C'est l'ami. C'est l'ami qui finalise mon amour. C'est l'ami qui donne à mon amour, son caractère propre. Tout le reste demande d'être complètement dépassé et relativisé par le fait même. Et n'est pas ce qu'il y a de premier dans l'amour. Ce qu'il y a de premier dans l'amour implique toujours ce réalisme. C'est l'ami que j'aime. Quatrième expérience, si vous voulez, puisque nous essayons exprès de les numéroter au point de vue politique. L'expérience du bien commun, l'amour du bien commun, au point de vue politique. Alors, est-ce que, là je me pose la question, est-ce que l'amour du bien commun ne reste-t-il pas toujours lié à une sorte d'intersubjectivité? Parce que le bien commun n'existe que dans la mesure même où je le fais. Donc il n'existe qu'à cause de mon activité. De ma recherche. Il n'existe pas avant ma recherche et avant la recherche de mon concitoyen, de celui qui, avec moi, fait partie de cette communauté particulière qui est la communauté politique. C'est là le très gros problème du bien commun. Est-ce que le bien commun est une véritable fin? Et est-ce que l'expérience que j'ai du bien commun, est-ce qu'il me met en présence d'une fin réelle? Ou est-ce que le bien commun n'est-il pas toujours teinté d'idéalisme? Vous êtes très idéaliste pour croire au bien commun. Vous voyez dans quel sens? Quel est le bien commun du peuple français aujourd'hui? Soyez réaliste. Ne regardez pas les affiches au moment des élections. C'est là où vous voyez la projection idéaliste du bien commun. Parce que chacun veut réformer la France en lui faisant « Demain, ce sera merveilleux. On attend le demain, rien n'est changé. » Et ça va pire. Il n'y aura plus de chômage. Non. Si vous m'élisez, il n'y aura plus de chômage. Vous voyez, le bien commun. Si vous m'élisez, ça sera parfait. L'économie progressera. Regardez le résultat. Vous voyez, c'est très très curieux de bien saisir combien le bien commun est toujours enveloppé d'idéalisme. Alors, c'est à se demander si au fond ce n'est pas le bien commun qui fait naître les valeurs. Puisque les valeurs impliquent toujours justement ce point de vue intentionnel de la cause exemplaire. Alors, est-ce que le bien commun n'est-il pas plus enveloppé de la cause exemplaire, un idéal, que de la réalité? Alors, là, il y a quelque chose qui est très délicat et je crois très important aussi. Est-ce que le bien commun est une vraie finalité? Donc, est-ce que l'expérience du bien commun me permet de découvrir l'acte comme finalité? Ou est-ce que le bien commun ne peut me faire saisir que une fin idéale que je poursuis tout le temps, que j'essaie tout le temps d'atteindre et que j'atteindrai jamais? Il y a un réalisme du bien commun, c'est évident. Quand Aristote dit que le bien commun, c'est la concorde des citoyens, et saint Thomas a repris cette expression, c'est la concorde, il ne dit pas l'amitié, il dit la concorde. Alors qu'est-ce que c'est que la concorde des citoyens? C'est leur harmonie. C'est une certaine bonne entente. C'est que lorsqu'on se retrouve, on n'est pas tout de suite à se prendre au chignon et à se secouer les uns les autres, ce que font les partis. Vous voyez, les partis politiques accaparent chacun le bien commun. Et les partis s'opposent les uns aux autres, comme chacun ayant le bien commun. Ce qui montre bien que le bien commun n'est pas une réalité. Une réalité tangible. Que le bien commun est vécu intentionnellement selon chaque parti politique. Je regarde dans un état tel qu'il est actuel. Et on trouverait ça dans tous les pays, je crois. Très curieux. Parce que le bien commun varie, on sait très bien, selon les régimes. Alors quel est le bien commun d'un régime communiste? Quel est le bien commun dans un régime démocratique? Quel est le bien commun dans un régime aristocratique? Et le bien commun dans un régime monarchique? Ça varie. Et alors le réalisme du bien commun, et l'idéalisme du bien commun va varier selon les régimes. Dans quel régime l'idéalisme est-il le plus fort? Pour nous, c'est facile à répondre. La chute du communisme montre que c'était un idéalisme pur. Vous savez d'avance. Et pas le pape ou pas celui qui faisait partie du parti. Il pensait que ça allait arriver. C'était un idéalisme auquel il tenait et auquel il croyait que ça allait arriver. Bien beau jour. La confrontation des partis fait qu'on s'aperçoit que c'est de l'idéalisme. Mais dans la démocratie, il y a aussi un fameux idéalisme. La liberté. La liberté prise comme un absolu atteint la destruction du vrai travail et donc du réalisme du travail. Les citoyens deviennent tous gonflés de la liberté et ne travaillent plus. Est-ce que le primat de la liberté ne devient pas rival du travail, de l'amour du travail, et donc de ce réalisme premier de l'œuvre? Vous voyez, là, il y aurait tout un aspect qui est très important pour l'expérience politique. Est-ce que l'expérience politique vous fait atteindre la réalité? Ou est-ce que l'expérience politique ne demeure-t-elle pas tout le temps dans un certain idéalisme, l'idéalisme des valeurs, l'idéalisme d'un programme politique, des promesses? Je crois personnellement que l'expérience politique ne nous donne pas l'expérience de l'acte, donc de la fin. L'expérience politique me donne uniquement l'expérience du comment. Des activités politiques, des activités de concitoyens qui s'unissent. Mais le bien commun n'est pas une réalité qui existe par elle-même. Le bien commun n'existe que dans un réseau de relations. C'est la relation qui prend le pas sur la substance quand il s'agit du bien commun. Et c'est, à ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Parce que ça montre comment l'aspect psychologique devient premier dans un aspect politique. Quand la politique remplace l'éthique, c'est la psychologie qui devient maîtresse. Vous manœuvrez le pays. L'aspect politique, l'aspect rhétorique. Dans la rhétorique, la psychologie est maîtresse de toute rhétorique pour manœuvrer. Et donc, ça fait comprendre que lorsqu'il s'agit de l'expérience politique, nous n'avons pas une expérience de l'acte. Nous n'avons que l'expérience d'une intersubjectivité. Il y a bien fondamentalement un acte, puisque fondamentalement il y a le travail, il y a l'œuvre, mais ce n'est pas ça qui est saisi en premier lieu. Le travail comme tel n'est pas politique. L'amour d'amitié comme tel n'est pas politique. Et donc l'aspect politique, dans ce qu'il a de tout à fait propre, ne me fait pas atteindre l'acte, une modalité de l'acte. Il me fait atteindre une intersubjectivité. Il me fait atteindre une manière particulière de relations humaines, une modalité spéciale, un comportement particulier de l'homme politique. C'est très très important de saisir ça. C'est difficile, il faut toujours y aller. Si j'étais en face d'homme politique, je ne pourrais pas dire ça comme je le dis maintenant. Tu vois, je mettrais des gants. J'essaierais de cerner le plus que je peux, mais au plan philosophique, on peut y aller carrément. Et on regarde si le bien commun est une réalité substantielle. Non! Ce n'est pas une réalité substantielle, le bien commun. C'est un tissu de relations. Alors, vous voyez, alors, à partir de Hegel, on comprend très bien comment l'aspect politique va devenir un sommet dans une philosophie où la relation remplace la substance. L'aspect politique devient le sommet et domine tout. Mais la relation ne fait jamais toucher la fin. Il faut dépasser la relation pour atteindre la fin. Puisque la fin est ce vers quoi je tends. La relation n'est qu'un moyen qui me permet d'atteindre la fin. Mais la relation comme telle ne me fait jamais toucher quelque chose de vie, d'acte, une fin. Jamais. Vous voyez, il faut beaucoup réfléchir à ça. Vous ne posez pas tellement d'actes politiques au noviciat ou dans la vie religieuse. C'est pour ça, du reste, que quand il n'y a plus que l'aspect politique, on regarde les religieux comme quelque chose d'inutile. La vie religieuse apparaît comme un parasite. C'est la conversation que j'avais eue sitôt la guerre avec un petit jeune marxiste étudiant à Paris qui venait au Solchoir passer quelque temps. Alors j'arrivais avec lui. Alors il me regardait le couvent. Non mais combien de temps ça va encore durer ça? Parce que c'est parasite. C'est complètement parasite. Qu'est-ce que vous produisez au point de vue du bien commun? Si on est témoin du point de vue religieux, mais oui, le point de vue religieux est parasite, opium du peuple. Donc c'est parasite. Et quand le parasite étouffe, il devient opium. Quand le parasite n'est pas trop fort, on le tolère, mais autrement. Vous voyez, et c'est très significatif que tout de suite, l'aspect religieux, au point de vue politique, ne peut être admis que s'il est relatif. S'il se soumet à quelque chose. Mais l'adoration est apolitique. Demander à un homme politique d'adorer tous les jours et d'adorer 7 fois par jour, il dira c'est inutile. C'est l'homme qui adore et c'est pas l'homme politique. Puisqu'il faut jeter sa couronne pour adorer, comme il est dit dans l'Apocalypse. Et donc il faut jeter la couronne de l'homme politique pour adorer. L'homme politique n'adore pas. Il essaie de trouver toujours un réseau de relations qui va remplacer la finalité. Alors, est-ce que ce réseau de relations qui remplace la finalité n'est-elle pas, ce point de vue des valeurs qu'on hiérarchise dans ces relations intersubjectives? Est-ce que toute valeur n'implique-t-elle pas un lien entre l'intersubjectivité et ne tient que grâce à cela? Ça n'a pas de tenue par elle-même. Donc ça n'a pas ce réalisme de quelque chose qui se tient par soi. Il faut réfléchir à ça, de sorte que je dirais profondément que l'expérience politique ne me dit rien sur la finalité. C'est dur de dire ça, hein, c'est très dur. Mais je pose un point d'interrogation. Est-ce que l'expérience politique me dit quelque chose sur la finalité, sur la finalité dans ce que Le philosophe recherche, qu'est-ce que c'est que la finalité? L'expérience politique me dira énormément de choses sur le comportement humain, énormément de choses sur la manière d'exister, sur le pos, dans l'immanence de l'intersubjectivité, mais ne me dit rien sur l'acte. Posez au moins la question. Et si vous êtes homme politique, si vous avez fait beaucoup de politique avant, et que vous étiez convaincu que la politique devait vous finaliser, essayez de comprendre le romantisme politique qui s'introduisait là-dedans, avec le point de vue de la rhétorique. Parce qu'il faut se dépouiller pour être réaliste. Vous voyez, dans toute communauté s'introduit une petite politique de la communauté. Dans toute communauté, il y a des partisans de droite et de gauche, puisque c'est des dénominations politiques. Dans toute communauté, il y a des tendances différentes qui se font. Est-ce que ça touche la vraie finalité ou est-ce que c'est très vite des parasites? On voit ça dans tous les conseils. Conseils de congrégation, conseils de formation. Ça risquerait de développer énormément l'aspect politique, ça. Si ce n'est pas réduit à sa plus simple expression. Nécessaire, il faut le conseil d'un point de vue politique. Pourquoi faut-il le conseil d'un point de vue politique? Parce que justement, la finalité, elle n'est pas immédiatement présente. D'où l'importance du conseil, parce que vous tournez en rond. Quand la finalité est là, on n'a pas besoin de conseil. C'est impératif. J'aime telle personne. Vous n'avez pas demandé conseil. J'aime telle personne. Ça s'impose. À vous demander conseil pour le comment, mais pas pour la finalité. Une finalité s'impose. Un artiste demande par conseil sur la fin qu'il fait, son métier. Et si on vient lui dire, ah, attention, dire, oh, écoutez, je le fais, hein, faites-le, puis on verra après. Si vous faites mieux que moi, je vous demanderai comment vous faites mieux que moi. Mais d'abord, il faut le faire. Tandis que quand le conseil regarde toujours le comment. Toujours. Alors quand il n'y a que le comment, il n'y a plus que le conseil. Ces choses-là. Vous voyez, la maladie qu'on voit aujourd'hui, hein, ces maladies de faire tout le temps des conseils, c'est ce que disait Napoléon. Hein. Vous voulez enterrer une question, eh bien, faites un conseil. Alors ça, c'était évidemment une très grosse charge de quelqu'un qui savait ce que c'était que le commandement et qui savait ce que ça représentait. Cette maladie de toujours se rassembler autour d'une table ronde. Et elle est exprément, justement ronde parce qu'elle est éternelle. Quand elle est carrée, elle n'est pas ronde. Et alors à ce moment-là, les choses peuvent se décider. Tandis que quand elle est ronde, elle ne se décide jamais. Alors, une table ronde. On va faire une discussion à table ronde. C'est-à-dire sans résultat. Et il n'y aura pas de résultat, parce qu'elle est ronde. Le point de départ et le terme se tiennent. Essayez de comprendre tous ces symbolismes qui nous montrent que, justement, il n'y a pas d'acte. En philosophie de la matière, y a-t-il découverte de l'acte? Et je cherche, je secoue toutes les parties de la philosophie, hein, puisque la philosophie première, la métaphysique est dernière, elle présuppose tout ça. Et si je ne vois pas tout cela, pour m'élever très haut dans la découverte de l'être en acte, qui au point de départ, à cause de la topique historique, m'est apparue comme la plus rare et l'extrême, c'est l'Himalaya. La philosophie de la substance, c'est le Mont Blanc. Et la philosophie de l'acte, c'est l'Himalaya. C'est un symbole. C'est métaphorique. Mais c'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Et donc, je dois, à ce moment-là, regarder attentivement toutes les parties de la philosophie pour redécouvrir une expérience type de l'acte. Si je n'expérimente pas l'acte, je ne peux pas faire la philosophie de l'acte. Ce sera d'idéalisme. Et je resterai dans l'immanence. Et je resterai dans les valeurs. Il faut une expérience particulière de l'acte. Et je dois chercher en philosophie de la matière où est l'acte.